Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le mot exercice dans le contexte des bovins laitiers? Est-ce que vous imaginez des vaches dehors ou des vaches qui font des tours de piste? Qu'est-ce qu'on entend réellement par exercice pour les vaches laitières? Et que savons-nous de l'impact de l'exercice sur celles-ci et des implications actuelles pour les producteurs laitiers d'aujourd'hui? Peut-être plus important encore, où allons-nous face aux attentes d'offrir aux vaches laitières la possibilité de faire plus d'exercice? Voici quelques-unes des questions clés que nous allons examiner aujourd'hui. Bienvenue à ce nouvel épisode d'En chemin vers l'excellence à la ferme, balado où nous discutons de sujets prioritaires pour les producteurs laitiers canadiens. Mon nom est Josée Denis Robichaud et je suis épidémiologiste vétérinaire, passionnée par la santé globale des animaux, de l'environnement et des humains. Notre objectif est de fournir aux agriculteurs et à leurs conseillers des informations utiles qui peuvent être appliquées à la ferme. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode un peu spécial. Nous entendrons le point de vue des producteurs, de l'industrie, des transformateurs et des chercheurs sur un sujet très important, la liberté de mouvement. Pour ce balado, nous nous sommes associés avec Lactalis Canada afin de présenter les dernières recherches sur l'exercice et la liberté de mouvement. Nous avons également profité de l'occasion pour avoir une discussion multilatérale sur les raisons pour lesquelles ce sujet est si important, les attentes actuelles de l'industrie laitière et de ce que l'avenir nous réserve. Bonne écoute!
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie d'intervenants de tous horizons pour parler d'exercice et de liberté de mouvement des bovins laitiers. Donc, j'aimerais vous laisser commencer par vous présenter puis nous parler un peu de votre perspective face à notre sujet d'aujourd'hui.
Bonjour tout le monde. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui aux côtés d'invités de marque. Je me présente Olivier Charbonneau. Et je suis actif au sein du secteur laitier depuis 2007, chez Lactalis Canada depuis maintenant 4 ans. Vous connaissez certainement notre entreprise car nous avons 20 usines au pays et nous transformons plus de 2 milliards de litres de lait avec des marques de renom comme Lactancia, Balderson, Astro, Iogo, Cracker Barrel et bien d'autres. Je suis très impliqué dans notre comité ESG qui traite des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. J'ai par ailleurs suivi la formation de maître chez Cow Signals et au sein de la compagnie, je suis le spécialiste pour les dossiers de bien-être et de santé animale. Chez Lactalis Canada, on est fermement engagé dans la fabrication de produits laitiers sains et nutritifs à partir de lait de qualité irréprochable et ça, bien, ça va au-delà des qualités organoleptiques du lait. C'est aussi la manière dont le lait est produit. Pour nous, il est primordial que les vaches laitières soient traitées en fonction de normes rigoureuses et c'est pourquoi nous nous impliquons dans plusieurs forums portant sur les questions associées au bien-être animal. Le fait de s'impliquer dans la diffusion d'informations scientifiques, comme aujourd'hui avec ce balado, bien, c'est une opportunité de plus pour nous d'être proactifs dans le domaine. On est fiers de commanditer le balado d'aujourd'hui conjointement avec les producteurs de lait du Canada. Nous soutenons le développement et l'adoption de pratiques s'appuyant sur la science afin d'améliorer la santé et le bien-être des animaux. C'est pourquoi nous voulons soutenir les producteurs du mieux que nous pouvons pour atteindre nos objectifs communs.
Merci Olivier. Moi, je suis Clémence Nash. Je travaille comme gestionnaire en production durable pour les PAC avec une concentration sur le bien-être et la traçabilité. J'ai un doctorat en épidémiologie et de bien-être de la Faculté de médecine vétérinaire à l'Université de Guelph. On est vraiment très heureux de travailler avec Lactalis aujourd'hui pour vous proposer ce podcast. Et je vais laisser Peter et Asta faire leurs introductions aussi.
Oui, ben, bonjour, moi c'est Peter Strebel, producteur de lait deuxième. La troisième génération est déjà bien en place à la ferme chez nous, à Saint-Blaise, au sud de Montréal, dans la province de Québec. Donc c'est ça, je suis membre du conseil d'administration des producteurs de lait du Québec, mais aussi des producteurs de lait du Canada. Et je préside présentement le comité de bien-être animal qui s'occupe surtout des directives un peu pour pro-action. Et à la ferme chez nous, ben on est toujours, on essaie d'être à l'avance puis d'innover en matière de production et de bien-être animal.
Je suis Elsa Vasseur, je suis professeure agrégée à l'Université McGill au département des sciences animales. Je suis co-titulaire de la nouvellement créée chaire de recherche innovation en bien-être animal et intelligence artificielle WELI. J'ai été coprésidente du comité scientifique qui a mené la revue de littérature, qui a supporté en fait la révision du nouveau code de pratique qui est sorti en 2023. Et j'étais aussi, à ce titre, membre du comité d'élaboration de la révision du code.
Toute une équipe aujourd'hui pour nous parler d'exercice puis de mouvement.
Donc, est-ce que, avec ton contexte, tu pourrais nous expliquer, définir un petit peu qu'est-ce qu'on veut dire par l'opportunité de mouvement dans le contexte laitier?
Donc, je vais commencer par expliquer c'est quoi la restriction de mouvement. On va commencer comme ça. Donc, la restriction de mouvement, c'est finalement la réalité qui est vécue pour la majeure partie du temps pour nos animaux domestiques, donc restreints éventuellement à l'intérieur, restreints éventuellement à la stalle. Donc ça, c'est ce qu'on entend par restriction de mouvement. Et la liberté de mouvement, c'est vraiment ce qui est vu par le public comme une condition essentielle à la vie de nos animaux. Donc la liberté de mouvement, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de pouvoir exprimer tout un répertoire comportemental varié, par exemple marcher, explorer, utiliser des postures de repos différentes, avoir des comportements sociaux, etc. Donc tout ça, c'est la liberté de mouvement. Donc augmenter l'opportunité de mouvement ou les opportunités de mouvement, c'est vraiment essayer de réconcilier l'image du consommateur à celle de la réalité en fait.
Est-ce que l'opportunité de mouvement, ça s'acquiert seulement par un accès à l'extérieur ou c'est quelque chose de plus large?
Donc, nos premiers travaux qui ont démarré à McGill en 2016 ont démontré qu'on pouvait augmenter, par exemple, les opportunités de mouvement à la stalle pour les animaux qui sont en stabulation travaillée. Donc, c'est possible. Alors, ce qu'on a commencé par faire, c'est qu'on a augmenté, par exemple, la longueur de chaîne. Quand on fait ça, on augmente l'espace dynamique. Ça permet à l'animal, par exemple, de davantage se mouvoir, davantage bouger à l'intérieur de la stalle. On a, par exemple, on peut aussi augmenter les opportunités de mouvement par augmenter la largeur du lit. Donc, ce qu'on a montré, c'est quand on double, par exemple, la largeur du lit, la vache, elle va avoir l'opportunité de varier ses postures de repos, comme on pourrait le voir, par exemple, dans un parc de tarissement ou bien quand les animaux sont au pâturage. Donc oui, augmenter à l'intérieur du système, c'est possible. Cependant, ce qu'on a démontré par nos travaux, c'est que lorsqu'on sort la vache de sa stalle, donc par exemple lors du tarissement, dans un parc de tarissement, ou donner un accès à une aire d'exercice à l'intérieur ou à l'extérieur, on augmente encore davantage les opportunités de mouvement qui sont fournies aux animaux et aussi les bénéfices en fait qui y sont associés. On a fait toute une série en fait d'études qui ont démarré en 2019 pour essayer d'identifier les conditions à l'exercice qui vont favoriser l'activité loctomotrice, donc en soi le nombre de pas, donc faire de l'exercice, avec l'idée derrière qu'on présupposait que les vaches ont un besoin de marcher. Ce qu'on a montré, c'est que de fournir par exemple une heure d'accès quotidien à une aire d'exercice, on va doubler le nombre de pas que la vache fait dans sa journée par rapport à une vache qui reste à sa stalle. Et on sait aussi que la manière ou les conditions qui sont fournies pour l'exercice ont un impact. Par exemple, la vache va faire davantage de pas si on lui la donne dans un accès à l'exercice à l'extérieur par rapport à l'intérieur. Plus l'espace est grand, plus elle va avancer son nombre de pas. Puis aussi, la durée de la sortie. Donc, si on double, donc si on fait 2 heures versus 1 heure de sortie, on augmente finalement le nombre de pas.
Tu as mentionné qu'il y avait des attentes, dans le fond, de l'industrie, des consommateurs. C'est quoi les attentes de nos consommateurs ou de l'industrie aujourd'hui en 2023?
Bon, Joseph, je vais me lancer un petit peu ici. Donc, juste pour un petit peu de contexte, Elsa l'a mentionné un petit peu dans son introduction, mais le volet bien-être de ProAction est basé sur le code de pratique qui a été récemment révisé et publié en mars 2023. Le nouveau code entrera en vigueur, les exigences entreront en vigueur en avril 2024, donc on a un petit peu de temps. Et puis, le comité technique de ProAction sur le bien-être est actuellement en train d'évaluer comment ajouter ces nouvelles exigences dans ProAction. Ça pourrait être quelques années avant qu'on voit les premières exigences être mises en vigueur dans le programme. Mais ce qui est intéressant, c'est que le nouveau code, ou le code revisé, a quelques exigences intéressantes sur le mouvement. Donc aujourd'hui, bien sûr, on fait un focus sur ça, J'ai parlé un peu plus en détail sur les autres exigences du code dans un autre podcast qui est Entre deux traites. Vous pouvez aller écouter à ce podcast-là pour plus de détails sur le code en entier. Mais les nouvelles exigences qui sont vraiment ciblées sur le mouvement, il y en a quelques-unes. La première, pour les saluations attachées en travée, à compter du 1er avril 2027, les vaches ne devront plus être attachées continuellement durant tout leur cycle de production, donc d'un vélage à l'autre. Elles devront avoir la possibilité suffisamment fréquente de se mouvoir librement pour favoriser leur bien-être. Et puis, les étables nouvellement construites, débutant avril 2024, doivent permettre quotidiennement une liberté de mouvement sans attache et des interactions sociales à l'année. Et puis, avec les veaux, plutôt que les vaches, les veaux dans les hutches doivent être fournis accès à un endroit en dehors de leur hutch. Donc, ils ne peuvent pas être enfermés dans leur hutch à tout temps. Donc, ces exigences ont été vraiment basées sur le rapport scientifique dont Elsa a mentionné, qui a résumé des recherches récentes sur les principaux thèmes liés au bien-être présentés au comité du code. Et ça, ce rapport souligne clairement que la liberté de mouvement est importante et bénéfique pour toutes les classes d'âge d'animaux. Mais on sait bien qu'il y a potentiellement des complications, des difficultés. Comment est-ce qu'on peut vraiment adapter ces exigences sur la ferme laitière d'aujourd'hui au Canada?
Et on va à côté peut-être producteur. Peter, je pense que vous avez une perspective vraiment unique.
Là, je vais y aller avec mon chapeau de producteur. Je pense là, comme producteur qui a à cœur le bien-être de le confort de ses animaux, ça devient un peu un dicton qui vient d'ailleurs, mais on peut dire vache heureuse, producteur heureux. Et c'est toujours ça un peu. C'est toujours un plaisir de rentrer à l'étable et de voir nos animaux en santé. Donc, c'est sûr, c'est procurer du confort, de la liberté. Et nous, on s'en est traduit par des animaux plus calmes, plus productifs, mais surtout, ça améliore la santé et la longévité des animaux. Donc, le confort, ça se traduit par la rentabilité. C'est des investissements à long terme, mais quand même, c'est profitable, je crois, quand c'est bien fait. Donc, c'est important d'incorporer la recherche et les connaissances là, dans nos pratiques à l'étable pour atteindre nos objectifs de bien-être animal. Beaucoup c'est déjà fait dans le passé. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de producteurs qui ont fait beaucoup d'adaptations. On parle des bedpacks au vélage, on parle à n'importe qui. Tout le monde est heureux et dit c'est le meilleur investissement qu'ils peuvent faire. Mais je pense qu'il y a encore du chemin à faire, mais l'industrie avance quand même bien. On produit un lait de qualité. Je dis toujours, si c'est pas assez bon pour ma famille, ben, je le vendrai pas aux consommateurs. Donc, c'est un peu ça notre dicton. On veut s'assurer d'offrir la meilleure qualité de vie, le meilleur confort à nos animaux pour produire un lait de qualité.
Est-ce que c'est un peu le même son de cloche du côté des transformateurs, Olivier?
Pour ma part, oui. Ça a vraiment le potentiel d'être une solution gagnant pour tous les maillons de l'industrie. Donc, j'abonde dans le même sens que Peter là-dessus. L'entreprise à laquelle j'appartiens, Lactalis Canada, fait partie d'un plus grand groupe qui est le groupe Lactalis, qui s'est doté il y a quelques années d'une politique sur le bien-être animal. Puis cette politique-là repose sur les 5 libertés fondamentales qui sont édictées par l'Organisation mondiale de la santé, l'OIE. Et une de ces 5 libertés-là, eh bien, c'est justement la possibilité pour les animaux d'exprimer les comportements normaux qui sont propres à leur espèce. Donc, offrir davantage d'opportunités pour la liberté de mouvement, pour faire plus d'exercice, bien, ça va définitivement dans le bon sens.
Ça doit quand même être quelque chose qui apporte plusieurs défis.
Il faut se rappeler quand même que dans le cadre du développement du code, c'est vraiment un consensus où on met tous les acteurs à la table. C'est quand même très, très unique au Canada. C'est pour ça que ça prend du temps. On a un processus, il faut se le rappeler, de consultation publique. C'est-à-dire n'importe qui a pu faire des commentaires sur la première version du code. Et d'ailleurs, ça a pris un temps fou à essayer de répondre à chacun de ces commentaires-là. Donc, on a un processus très particulier au Canada qui fait que le code de 2023, c'est un code qui reflète en fait toutes ces discussions.
Ce qui est très apprécié avec le code et le volet bien-être, c'est qu'en général, on essaie de le garder très peu normatif, ce qui signifie que les producteurs, avec leurs ressources, avec leurs entreprises, peuvent avoir une flexibilité à comment répondre aux exigences de la manière qui leur convient le mieux, dans des limites raisonnables, bien sûr. Donc, il y a une ferme qui pourrait avoir un accès au pâturage et laisser leurs vaches dehors. Il y en a d'autres qui pourraient peut-être construire un hangar avec des enclos et les garder à l'intérieur. Les deux peuvent potentiellement atteindre les exigences. Donc, je sais que Peter, on travaille avec le comité technique à essayer de définir ça un petit peu pour le programme, mais on essaye de le garder aussi flexible que possible pour toutes les entreprises qui existent au Canada.
Ben, comme Clem a dit, je pense que le mandat du comité technique de bien-être animal, c'est de définir un minimum ou de qu'est-ce que c'est un exercice adéquat ou suffisant pour répondre aux exigences du code qui rentre aussi à l'intérieur de ProAction. Puis je pense que ProAction, c'est quand même un excellent outil. Tous les producteurs laitiers du Canada doivent être certifiés. Donc, il y a des méthodes de certification, de vérification qui sont là. Moi, je pense que le mandat du comité, c'est vraiment ça va être là, ça, d'avoir des attentes claires, des délais à respecter, puis le processus de certification, comment répondre aux exigences là, du code et de ProAction.
Donc, je voulais aussi ajouter que peu importe le système, soit sa version attachée ou libre, on peut avoir un très bon régime de troupeau et les producteurs ont beaucoup de succès. Aujourd'hui, c'est surtout cibler comment leur donner assez d'opportunités de mouvement et que les exigences sont vraiment ciblées sur ça. Donc, on veut discuter de quelle façon on pourrait vraiment atteindre ces exigences et non de vraiment débattre le meilleur système.
Je me demande comment est-ce que les producteurs perçoivent l'implémentation de ces nouvelles exigences?
Ben, les connaissances dans la conception des étables, je pense que ça a changé énormément depuis une vingtaine d'années. Ça va excessivement vite. Je dis souvent, tu construis quelque chose aujourd'hui, puis tu vas être. Tu essaies d'être à l'avance ou 10 ans à l'avance. Mais c'est ça, souvent, on a fait. Nous, on a passé de stabulation attachée à stabulation libre en 97. On a déjà fait des modifications quand même assez importantes dans l'étable. Ils ajoutent des agrandissements, l'ajout de plus de confort, le réaménagement de la pouponnière. Donc, on a fait quand même beaucoup d'ajustements, soit par des visites, par des connaissances aussi qui sont sorties des différentes recherches. Je pense que les étables à stabulation libre aujourd'hui, maintenant, la conception, c'est vraiment plus c'est ce que c'était il y a 30 ou 40 ans. Mais c'est ça, c'est important de prendre les connaissances, de faire des visites. Et c'est ça, il y a une portion que c'est la conception ou le confort de l'étable, mais surtout de la circulation des animaux. Nous, on essaie de faire un bon point là-dessus. Bon, c'est tout simple, on ouvre une barrière, la vache est passée dans l'autre section à côté parce qu'elle est passée d'une vache en lactation à une vache à terrier. Bon, on rouvre l'autre barrière, elle passe dans le bedpack. Donc, il n'y a pas de changement, il y a pas, la vache n'est pas brusquée dans ces choses. Puis, elle ne subit pas un stress à s'adapter vraiment beaucoup à un nouvel environnement. Je pense que toutes ces connaissances-là, ça fait qu'on sait que quand on change les vaches de groupe ou c'est ça, la hiérarchie et tout ça, mais quand c'est bien fait, là, on s'aperçoit que ça améliore vraiment beaucoup. Là. Mais c'est des petits pas à la fois, mais je pense en faisant des visites et en prenant les connaissances un peu sur plusieurs fermes qui ont fait des essais. On voit qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis aussi, une fois, quand ça fonctionne bien pour les vaches, habituellement, ça fonctionne bien pour le producteur aussi. Mais le changement puis l'adaptation, ça n'a pas toujours été facile. Il y a plusieurs défis, tout dépendant des entreprises, à quel niveau, à quel stade ils sont rendus. Est-ce que c'est un jeune producteur qui vient de prendre la relève? Ou peu importe. C'est sûr qu'il y a le côté financier, il y a le côté temps, la main-d'œuvre disponible, réglementation provinciale ou fédérale. Ça nous met, je pense, ça a beaucoup influencé aussi le choix des producteurs dans les dernières années. Puis aussi les limitations là, des installations actuelles, présence de d'autres bâtiments, tout ça, des fois, ça nous restreint aussi dans nos capacités à s'adapter. Mais je pense que c'est quand même motivant quand on va de l'avant. Ce sont les producteurs, on est quand même le premier maillon dans la chaîne là, à fournir du bien-être puis à produire un produit de qualité auquel les consommateurs canadiens peuvent être fiers, je pense, de l'élevage bleu et le lait canadien de qualité.
Donc, je pense que tout le monde à la table s'entend pour dire que liberté de mouvement, opportunité de mouvement, c'est désirable dans notre industrie. Peut-être, Elsa, c'est quoi les bénéfices qui ont été observés là, côté recherche? Peter nous a dit que lui, à la ferme, il voyait. Est-ce que tu peux développer un peu plus là-dessus?
Oui, donc je pense que la recherche corrobore hein, les propos de Peter. Si je prends spécifiquement la recherche qu'on a fait sur augmenter les opportunités de mouvement et spécifiquement peut-être avec les aires d'exercice, ce qu'on a montré, c'est d'abord des bénéfices vraiment visibles sur la santé des onglons et des boiteries. Donc on le sait, hein, la boiterie, c'est un problème important pour l'industrie laitière. Ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'on sort les animaux de la stalle au quotidien pendant 5 semaines, on a une amélioration de la norme de démarche d'un point. Donc sur une échelle de 1 à 5, un point, c'est beaucoup. Et en fait, c'est vraiment visuel à l'œil nu. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que cette amélioration, elle perdure dans le temps. Donc elle a perduré jusqu'à 8 semaines après la fin des sorties. Donc même quand les animaux revenaient à la stalle, on voyait cette amélioration-là. Donc aujourd'hui, par exemple, Emile, le troupeau sort tous les jours et c'est visible à l'œil nu. Hein. Les vaches marchent tous les jours dans un environnement non restreint, elles sont plus fortes sur leurs pattes, elles sont plus à l'aise à exprimer toutes sortes types de comportements. On voit des comportements de jeu, on voit de la course, on voit des animaux qui sautent et on les voit sans avoir peur de se dire il y en a une qui va se casser la figure. Vraiment, on sent que les animaux ont par elles-mêmes tranquillement adopté différents types de comportements qu'on ne voyait pas d'ailleurs au début où on sortait les animaux et qui ne sont pas possibles quand les animaux sont à l'intérieur de la stalle. Donc, elles gagnent de l'assurance, ça c'est clair. Et aujourd'hui, on utilise différents types d'outils technologiques, par exemple la cinématique pour regarder vraiment, déconstruire le mouvement, les caméras infrarouges pour comprendre comment les fluides bougent, par exemple, dans la vache, et ce qu'on peut pour essayer d'aller voir plus loin, la détection d'améliorations plus précoces de la démarche et de la santé des pieds et membres, avec l'idée qu'une détection plus précoce, ça permettrait aussi peut-être de réduire des coûts en moins au final à la ferme. Un autre aspect, c'est l'histoire de la manipulation des animaux. Et effectivement, sortir les animaux de la stalle, ça peut devenir en fait une aide à la manipulation. Sortir les animaux, c'est finalement confronter l'animal à des manipulations supplémentaires. Hein, plutôt que de bouger l'animal de sa stalle à, mettons, une stalle de vélage à un moment clé, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. Donc, les animaux vont être beaucoup plus facilement manipulables. On a noté, par exemple, des scores d'approche. Après plusieurs semaines de sortie, les vaches se laissent plus facilement approcher, par exemple, pour mettre un licou. Donc, ça peut être plus facile pour une gestion quotidienne. Le deuxième aspect qu'on a noté, nous, pour les manipulations supplémentaires, c'est que ça confronte l'animal à des nouvelles situations. Donc, sortir l'animal de son environnement, la mettre dans un autre environnement, finalement, par exemple, l'extérieur, c'est assez imprévisible. Il y a des lapins qui se promènent, il y a des choses qu'on voit à l'extérieur. Et ce qu'on a montré, c'est des meilleurs scores de réactivité. C'est-à-dire qu'à la fois, les vaches, elles sont plus curieuses et en même temps, elles sont moins sensibles à des événements soudains. Et ça voulait dire aussi une manipulation quotidienne qui va être plus aisée. Par contre, il y a quelque chose d'important qu'on a trouvé, c'est que la manière dont on manipule les animaux lors des sorties est cruciale sur la réaction et la réactivité des animaux. Il faut absolument que la vache, elle perçoive ce changement de routine comme une expérience positive pour que la manipulation, en fait, devienne facile. Et il faut vraiment prendre le temps, surtout pendant la période d'habituation, pour donner la vache à apprendre. C'est comme tous les changements de routine. Les gens qui sont passés au robot de traite, ils le savent. Changer la vache d'environnement à un autre, ça prend du temps. Et c'est vrai aussi pour quelque chose qui paraît à la base aussi simple que sortir la vache de sa stalle pour l'amener, en l'occurrence, dans une aire d'exercice. Donc, il faut prendre le temps de donner à la vache d'apprendre. Et ce qu'on a noté, c'est que si on y va avec la force, si on essaie de retenir finalement ces animaux parce qu'on a peur que les animaux se mettent à courir, par exemple, et qu'ils se blessent,
c'est pas une solution gagnante à long terme. Ce qu'on a montré, c'est que dans ce cas-là, on va freiner la vache dans son apprentissage et on va créer une espèce de mécompréhension sur la démarche à suivre. Finalement, tu veux que je sorte, mais en même temps, tu veux que je me restreigne. Et ce qui se passe, c'est que ça crée une loupe négative où les animaux vont être plus difficiles à manipuler et les producteurs, eux, vont aussi vivre l'expérience de manière assez négative. Donc, il faut se rappeler que dans tout changement de routine, c'est quelque chose qui prend du temps et c'est un vrai apprentissage et pour l'humain qui manipule la vache et pour les animaux.
Qu'est-ce qui reste à faire pour la suite de la recherche ou c'est quoi les prochaines étapes qui s'en viennent?
Effectivement, la recherche, elle s'arrête pas là. Je dirais que ce qu'on s'est surtout rendu compte dans les recherches précédentes, c'est que augmenter l'opportunité de mouvement ou les opportunités de mouvement, c'était bien plus une question plus complexe que d'augmenter son nombre de pas quotidien. Donc c'est important. Nous, les humains, aujourd'hui, on est tous intéressés que notre téléphone mesure, je pense, le nombre de pas qu'on fait. Pour ceux qui font pas assez d'exercice à tous les jours, c'est une mesure. Donc oui, l'activité locomotrice est importante. J'ai passé avant, il y a un effet direct sur l'activité locomotrice et la capacité de la vache, par exemple, à pouvoir se mouvoir et à pouvoir réapprendre à marcher. Par contre, la recherche qui s'en vient, c'est qu'on a besoin de davantage comprendre l'expérience globale de l'animal. Lors, par exemple, d'un accès à une aire d'exercice pour pouvoir affiner les recommandations et l'application ferme. Donc, j'en parlais plus tôt, mais on s'est rendu compte, par exemple, que comment on a manipulé les animaux, c'était important pour pouvoir créer une expérience positive et pour l'animal et l'humain, mais il faut qu'on aille plus loin que ça. Et aujourd'hui, on a besoin de créer des nouvelles connaissances pour tous les systèmes de logement, qu'on soit en stabulation libre ou qu'on soit en stabulation de travail. Alors, d'autres questions en exploration, ça va être par exemple, c'est quoi la fréquence de sortie si on opte pour un exercice à l'extérieur? Est-ce que ça fait une différence si on sort tous les jours, si on sort une fois ou si on sort trois fois par semaine? Comment on gère cette sortie? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de temps? Finalement pour la sortie, est-ce qu'il faut que chacun des animaux retourne à sa stalle? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut au quotidien appliquer ça et puis gagner du temps un petit peu sur la pratique? Où est-ce qu'on peut sauver du temps? Après, on a des questions aussi sur l'enrichissement. Est-ce qu'on peut faire qu'un accès à un autre aire soit autre chose? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans l'aire d'exercice pour, par exemple, améliorer l'expérience de l'animal, peut-être en termes de sociabilité, en termes d'enrichissement environnemental? Puis il y a encore des grandes questions. Est-ce qu'il faut qu'on sorte les animaux avec quel type de groupe? En grand groupe, en petit groupe? Est-ce qu'il faut qu'on facilite finalement le groupe, les groupements sociaux pour pouvoir finalement corroborer des choses ou peut-être éviter des problèmes, par exemple, de mise en place de la hiérarchie finalement qui se fait de plus en plus, le type de problème qu'on peut retrouver lorsqu'on fait des regroupements finalement dans tout type de production.
En tant que transformateur, comment est-ce que ces nouvelles exigences-là, la science dont Elsa nous a parlé, comment est-ce que vous percevez ça, puis comment est-ce que ça l'affecte ou influence votre relation avec les consommateurs?
Je pense qu'on a un rôle qui est assez unique au sein de la filière, dans le sens où on est à l'interface entre tout ce qui est en aval et en amont. Dans le fond, les préoccupations qu'on remonte vers les producteurs, vers les comités de travail comme les comités pro-action, oui, c'est les nôtres. Par exemple, j'ai mentionné que le groupe Lactalis avait une politique sur le bien-être animal. Donc, il y a nos propres préoccupations dans ça. Mais il y a aussi tout ce qui nous est acheminé par les consommateurs finaux d'une part, mais aussi par nos clients directs. Donc, les clients, ça peut être des restaurateurs, ça peut être des détaillants alimentaires, et ça peut aussi être des surtransformateurs qui utilisent nos produits laitiers pour faire de la confiserie ou d'autres choses. Et je pense que la plupart de ces clients-là, dans l'ensemble, ils sont tous conscients que s'il y a des implications majeures au niveau de la ferme, par exemple, si le changement qu'on essaie de mettre en branle, il implique de changer la routine hebdomadaire de la ferme ou il implique de faire des modifications au bâtiment, Bien, ils sont conscients que ça va prendre un certain temps. Ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. Ce qu'ils souhaitent voir, par contre, c'est que l'industrie est engagée dans un processus d'amélioration continue, qu'elle prend en compte les nouvelles études scientifiques qui sont publiées au fil du temps et qu'elle se mobilise pour évoluer au fil des attentes sociétales qui, elles aussi, changent au fil du temps.
Et Peter, vous en pensez quoi comme producteur laitier?
Je pense que c'est justement l'image des consommateurs. Puis souvent, je dis aussi, le citoyen puis le consommateur, des fois, c'est deux personnes. Le citoyen exige, puis le consommateur, ben, il faut qu'il paye à l'épicerie. Des fois, on change de mentalité un peu. Je pense que la vache bleue puis les programmes de certification, ça fait un peu partie aussi du système d'éducation du consommateur. Pas juste pour les produits laitiers, pour les légumes aussi, ou peu importe, là, par tout ce qui entoure l'alimentation, je pense. C'est ça, souvent, on voit ça encore comme c'était dans le temps. On dirait que l'agriculture ne s'est pas adaptée avec la technologie, mais ce qui est tout à fait le contraire. Là. Je pense qu'il y a un peu d'éducation du consommateur aussi. C'est quoi, ou juste nos pratiques puis nos façons de faire. Oui, c'est différent, mais à bien des égards, je pense, si on a les niveaux de production qu'on a aujourd'hui, parce que nos animaux, ils ont le confort, là. C'est anecdote, mais il y a 30 ans, si tu avais un troupeau qui donnait 10 000 litres de lait par vache par année, wow, c'était des troupeaux élites. Et maintenant, 11, 12, 13 000, c'est rendu très courant. Puis avec une alimentation beaucoup plus équilibrée que ce qu'on faisait, avec moins de frais vétérinaires. Donc, je pense que c'est vraiment le confort animal qui a aidé dans ça. Fait que c'est différent, mais je pense qu'aujourd'hui, on a quand même plus de confort.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres bénéfices à ces nouvelles attentes face à la liberté de mouvement?
Une chose que je trouve intéressante par rapport à ce nouveau critère-là pour l'opportunité de mouvement, l'opportunité pour l'exercice, c'est qu'il y a peut-être aussi d'autres bénéfices indirects. T'sais, on disait qu'à travers ça, il est possible d'avoir une meilleure santé animale. Bien, ça peut mener vers une plus grande longévité. Puis une plus grande longévité, bien, ça va vouloir dire que à terme, il y aura eu moins de gaz à effet de serre d'émis. Donc, on vient d'avoir une action qui va amener une meilleure santé animale, un meilleur bien-être animal, peut-être aussi en continuant à réduire l'empreinte carbone de l'industrie laitière. Donc, bénéfice insoupçonné peut-être.
Oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs exigences qui vont attribuer des bénéfices dans plusieurs volets, plusieurs endroits. Et on veut surtout que tout fonctionne ensemble. Et ce qui est super, c'est qu'au niveau national, on commence à vraiment bien utiliser le programme de proaction, le code, tout ça, à informer nos projets de marketing pour les consommateurs, pour mieux lier le lien entre la vache bleue et tout le travail que les producteurs sont en train de faire sur la ferme pour atteindre ces exigences, atteindre ces meilleures pratiques. Donc ça, toutes ces étapes, tout pas positif vont avoir leur valeur dans qu'est-ce qu'on peut communiquer et utiliser pour informer les consommateurs. Donc c'est vraiment excitant de voir comment ça commence à tout marcher ensemble.
Comment on va faire pour accroître ces opportunités de mouvement-là? Puis je pense qu'on en a déjà discuté, mais peut-être faire un petit résumé de où on en est, puis c'est quoi les stratégies qu'on prend comme industrie pour en arriver là?
Moi, je vais commencer avec les efforts qu'on fait au PLC, de vraiment supporter la recherche sur comment appliquer ces exigences, ces attentes sur la ferme laitière de façon pratique et possible pour les producteurs. Donc, c'est là où le travail que SA fait va être très important pour informer le comité technique de proaction à déterminer comment vraiment appliquer ces exigences dans le programme. Donc, c'est là où les prochaines étapes, les connaissances vont être très importantes. Et je pense que travailler ensemble de façon aussi proche que possible avec les chercheurs, mais aussi avec les fournisseurs, les détaillants, tout le monde ensemble pour être sûr qu'on est sur la même page et bien appliquer la recherche sur la ferme. Donc, c'est là où je pense qu'on va s'en venir.
Pour ma part, pour mon opinion de producteur, je pense que c'est comme je dis, mon père a acheté la ferme il y a presque près de 50 ans maintenant et parce que la production en général est toujours en évolution. Tous les producteurs que je connais, je pense, ça a tout été une amélioration graduelle et continue. On cherche toujours à s'améliorer, à améliorer le soin et le confort de nos animaux, parce que c'est ça, ça rapporte aux producteurs, puis ça nous donne plus de bonheur aussi de travailler avec des vaches heureuses en santé. C'est vraiment une continuité. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de changements qui se sont faits dans les dernières années. Je pense qu'on s'appuie sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles recherches, sur les nouvelles connaissances, comment s'améliorer à la ferme, comment améliorer le confort des animaux, comment améliorer notre qualité du produit qu'on livre aux transformateurs. Donc, je pense que c'est vraiment une continuité avec tous ceux qui sont impliqués dans l'industrie. Écoutez, on est le premier maillon, mais c'est faux. Il faut avoir des maillons jusqu'à la fin, jusqu'à sur la table du consommateur pour livrer un produit de qualité qui répond aux attentes.
Merci d'avoir écouté cet épisode de la série de balado-diffusion des producteurs laitiers du Canada en chemin vers l'excellence à la ferme. J'espère que vous avez apprécié notre discussion. Ce balado a été animé et édité par moi-même, José-Denis Robichaud, et produit par Carly Wright. Merci à nos invités et à vous pour votre écoute. Cette balado-diffusion a été élaborée en collaboration avec les producteurs laitiers du Canada et Lactalis Canada.